Vous êtes sur RTL.
Et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 6 janvier, le Covid entre vaccination et restrictions. Nouveau conseil de défense ce matin. Alors que nos voisins reconfinent, Jean Castex fera des annonces demain à 18h. Le Premier ministre devrait se garder de donner des dates précises de réouverture. Et en Chine, une ville de 11 millions d'habitants proche de Pékin vient d'être coupée du monde. L'inquiétude remonte. Dans RTL Midi aussi, un enseignant sur deux s'auto-censure sur les questions religieuses. Résultat d'une enquête menée par la Fondation Jean Jaurès pour Charlie Hebdo. Nous serons en ligne avec un enseignant d'histoire géographique qui nous racontera son quotidien. 2300 postes supprimés chez Michelin sur 3 ans. Le Bibendum veut augmenter sa compétitivité de 5% par an. Tous les sites français seront touchés. Et puis le coup de cœur de nos correspondants. Aujourd'hui, nous irons à Strasbourg où le futur stade de la Méno sera écolo. On va même faire du neuf en recyclant du vieux. La météo. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Franchement, on ne vous remercie pas pour le couvercle.
Eh oui, je sais bien. Malheureusement. Mais enfin bon, les jours se suivent et se ressemblent, ou presque. On a encore, c'est vrai, beaucoup de nuages sur la majeure partie du pays. Quelques flocons sur le nord-est et le centre. Et quelques averses sur les côtes de la Manche et l'ouest de la Corse. Des averses neigeuses d'ailleurs des 600 mètres. Mais tout de même, une bonne nouvelle, même si ça ne concerne pas grand monde. Le retour du soleil dans le sud, vers l'Aquitaine et entre les Pyrénées et la Méditerranée. Il faut prendre les bonnes nouvelles quand elles sont là.
Absolument.
Les températures, elles sont toujours aussi fraîches, pour ne pas dire froides. Comprises cet après-midi entre 0 et 6 degrés, jusqu'à 10 dans le sud-est.
La question du jour sur RTL.fr à propos de la laïcité. Les enseignants sont-ils livrés à eux-mêmes? Eh bien, on attend vos témoignages au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Effectivement, on attend les témoignages des enseignants, mais peut-être également des parents, des élèves. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ces problèmes de laïcité à l'école? Une question polémique. Les soignants doivent-ils se faire vacciner contre la Covid-19? Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit obligatoire pour les médecins, infirmiers, aides-soignants? Qu'en pensez-vous? Et puis, nous pourrons évoquer également ce que nous avons parlé, ce dont nous avons parlé déjà hier, et vous étiez très nombreux d'ailleurs sur le sujet très difficile et grave de l'inceste. Faut-il supprimer la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs? Voilà une question qui mérite également un débat.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer ce journal, un début d'année bien arrosé. Des malfaiteurs ont fait main basse sur la cave d'un relais château de Saint-Jean-de-Trézy en Saône-et-Loire. 500 000 euros de grands crus, imaginez. Et ils ont été rattrapés après une scène surréaliste, digne de Super Mario ou de la Grande Vadrouille, Frédéric Perruche.
Ah oui, car le domaine a été cambriolé deux fois lundi matin à l'aube, 200 000 euros de préjudice et rebelote mardi. Entre 3h et 5h du matin, l'équipe est revenue, mais cette fois, elle a réveillé les deux gérants qui ont assisté impuissants au chargement des dernières bouteilles des grands crus et même XXL comme des Romane Conti à 10 000 voire 15 000 euros la bouteille, des Montrachet, Von Romane, Alox Corton, Pomard, quelques milliers de bouteilles inventaires en cours, mais le commando a visiblement choisi l'excellence. Le précieux chargement est embarqué dans une fourgonnette que les propriétaires décident de suivre à distance. Après avoir alerté la gendarmerie, à Chalon-sur-Saône, un premier véhicule de police les prend en chasse sur l'autoroute A6, rejoint par un équipage de la gendarmerie. À plusieurs reprises, les forces de l'ordre tentent d'arrêter les fuyards, mais ils essuient des jets de bouteilles qui, heureusement, n'atteignent pas les pare-brises. Ils n'ont alors pas d'autre choix que de les suivre quand les voleurs défoncent une barrière de péage à Villefranche, avant d'abandonner leur véhicule à Bron au terme d'une équipe de 120 km. L'essentiel du chargement, évalué à plus de 350 000 euros, a été récupéré, passé au crible par la police scientifique, tout comme le véhicule. Mais les trois malfaiteurs sont en fuite et activement recherchés. Mais
quelle histoire! Merci Frédéric Perruche. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubillard, cette jeune mère de famille de 33 ans qui a quitté son domicile en pleine nuit à Cagnac-les-Mines d'après son mari avec ses chiens? Depuis 3 semaines, les recherches n'ont rien donné. De nouvelles investigations sont menées depuis hier du côté de sa maison par les gendarmes scientifiques. Et en ce moment même, les gendarmes fouillent aussi les égouts du quartier, nous dit notre correspondant Patrick Tégéraud. Cela fera 6 ans demain que l'équipe de Charlie Hebdo a été décimée pour ses caricatures. L'hebdomadaire satirique publie aujourd'hui une enquête réalisée auprès des professeurs sur les questions de laïcité avec la Fondation Jean Jaurès. Et le constat est inquiétant. 2 mois et demi après l'assassinat de Samuel Paty, près de la moitié des enseignants affirment, Marie Guerrier, s'être déjà auto-censurés.
Oui, une auto-censure sur les questions de religion pour éviter de possibles incidents en cours. 49% des profs le reconnaissent dans les collèges et lycées publics. C'est une proportion en hausse de 13% en 2 ans. Et c'est encore plus fort chez les profs de moins de 30 ans. Quand on demande si Samuel Paty a eu raison ou tort de s'appuyer sur des caricatures de presse pour son cours sur la liberté d'expression, 1/4 des profs interrogés n'approuvent pas son choix. Certains parce qu'ils estiment qu'il faut respecter la sensibilité religieuse des élèves, d'autres parce qu'ils ne se sentent pas armés pour contrer les contestations éventuelles, analyse la Fondation Jean Jaurès. Ils ne cherchent pas non plus beaucoup de soutien auprès de leur hiérarchie. L'enquête montre que les profs signalent à la direction de l'établissement seulement la moitié des contestations d'enseignement de la part d'élèves. Mais dans 16% des cas, l'enseignant concerné n'a même rien dit à personne.
Merci Marie. Et nous sommes justement avec l'un d'entre eux, un prof d'histoire géo de lycée en Seine-et-Marne. Bonjour Pierre Gauthier et merci de témoigner.
Bonjour Christelle.
Vous avez eu un problème un jour sur la théorie de l'évolution. Expliquez-nous.
Oui, alors c'était dans une digression en fait que j'ai faite sur un chapitre d'histoire. Au cours de cette digression, donc j'ai évoqué la théorie de l'évolution et j'ai une élève donc qui très nettement a manifesté que c'était juste un point de vue de ma part de parler de l'évolution et que en aucun cas c'était une certitude et une réalité. Alors j'ai pas cherché le conflit, hein, donc je lui ai dit effectivement on a d'autres façons de penser les choses, on peut très bien considérer que Dieu est à la base de tout et est à l'origine de tout, et là-dessus j'ai rien à dire, vous avez effectivement le droit de le penser. Moi j'ai une démarche scientifique, je m'appuie sur un certain nombre d'éléments scientifiques et donc voilà, moi je vous tiens le discours de la science, je suis pas là pour vous tenir le discours de la religion.
Est-ce que ça vous arrive de plus en plus souvent d'avoir ce type de remarques en classe?
Oui, de plus en plus souvent. Et en gros, alors moi je suis enseignant depuis une 30aine d'années.
Oui.
Donc on voit nettement depuis, allez je vais dire une petite 10aine d'années, une augmentation de cette contestation, quelquefois de la part de personnes assez jeunes. Moi je suis en lycée, donc je prends des jeunes à partir de 15 ans. Ce qui est assez incroyable, c'est que quand vous leur posez un petit peu des questions, mais extrêmement simples, sur la religion, je ne sais pas où est né le prophète, où est-ce qu'il a grandi, etc., ils sont incapables de vous répondre. Donc j'ai l'impression qu'il y a un discours qui est formaté et qu'ils intègrent peut-être moins d'ailleurs pour des raisons de conviction religieuse que pour des raisons d'affirmation d'une différence, quoi, quelque part.
Mais si c'est juste une affirmation de différence, ça veut dire que c'est pas grave, ça peut être juste transgressif comme n'importe quel adolescent est transgressif.
Ouais, mais à partir du moment où vous avez quand même dans certaines classes de 30 personnes, 20 ou 25 personnes qui peuvent vous tenir ce genre de discours, oui. Ce qui ne m'arrive pas à moi parce que je suis dans un établissement dans lequel le profil de mes élèves n'est pas exactement celui-ci, mais j'ai des collègues en Seine-Saint-Denis ou dans certains endroits qui sont dans ce cas-là. Et là, il y a une question à se poser. Pourquoi un groupe aussi important de personnes, sans avoir forcément de conviction vraiment religieuse derrière, affirme cela? Donc moi, je le sens bien, il y a une volonté de s'opposer, si vous voulez, à la communauté, ou d'affirmer l'existence d'une communauté. Et ça se voit notamment parce que on se contente pas, par exemple, d'utiliser ces arguments par rapport à la religion. Ça va quelquefois au niveau même de l'interprétation de faits historiques qui sont remis en question, etc.
Vous venez de faire un cours à l'instant, Pierre Gauthier, sur la liberté d'expression. Quels arguments avez-vous utilisés et comment l'avez-vous illustré ?
Alors, j'ai fait effectivement un cours très exactement sur la caricature pour parler des religions.
On est au cœur du sujet. Oui.
Alors, vraiment au cœur du sujet. Bon, il y avait l'anniversaire donc, de Charlie Hebdo, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Je suis parti, en fait, d'une caricature, la caricature de Plantu qui a été faite en détournant le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, où on voit donc cette liberté qui a des crayons à la main. On a décrypté la façon avec laquelle il fallait comprendre la caricature, on a essayé de décrypter le message qui était derrière, et ensuite je suis parti sur une caricature de Charlie Hebdo de Jésus C'était une qu'ils avaient faite sur la sortie de la pièce de théâtre Le Dîner de Con, qu'ils avaient illustrée par un détournement de la scène. Et j'ai fait exprès de partir de quelque chose qui n'était pas Mahomet, qui ne faisait pas référence à la religion musulmane. Et en fait, les réactions sont les mêmes. Et pourtant, ce ne sont pas forcément des élèves qui sont donc croyants de cette religion, voire croyants du tout. Mais pour beaucoup d'entre eux, on n'a pas le droit de faire ça. Ça ne mène à rien. Alors justement, j'ai essayé de creuser derrière, pourquoi on le fait, quels sont les risques de faire ça, est-ce que c'est constructif pour la société de le faire. Donc on a essayé d'aborder les choses, mais ce qui était quand même dominant dans leur réponse, c'était on n'a pas le droit. Et d'ailleurs, j'ai été extrêmement surpris de me rendre compte qu'une grande majorité d'entre eux pensait que le blasphème était interdit en France. Donc j'ai été utiliser une carte où on a regardé dans le monde quelle était la situation des États par rapport au blasphème, et ils se sont rendus compte.
D'où la pédagogie nécessaire et indispensable que vous décrivez extrêmement bien. Merci pour ce témoignage qui était passionnant. Merci Pierre Gauthier, à bientôt.
Merci Christelle.
Une pause et dans un instant, on part en Chine où les cas de Covid se multiplient.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il y a un an, le monde commençait à s'inquiéter d'une étrange épidémie de pneumonie en Chine. Quelques jours après, la ville de Wuhan était placée en confinement pour 77 jours. Eh bien, on se demande ce matin si le même scénario n'est pas en train de se répéter. Une autre ville de 11 millions d'habitants, elle aussi, vient d'être coupée du monde. Elle est située à 300 km au sud de Pékin. L'inquiétude repart, Stéphane Pambrin.
L'hiver est déjà là. Moins 18 degrés aujourd'hui à Pékin et le retour du coronavirus dans une capitale à nouveau placée sous très haute surveillance. À 300 km au sud de la ville, la province du Hebei est en quarantaine. Zone de guerre, comme l'expliquent les autorités chinoises, qui ont fermé toutes les liaisons entre Pékin et cette province de 71 millions d'habitants. La ville de Shijiazhuang est fermée. Ces 11 millions d'habitants doivent rester chez eux et ils seront tous dépistés dans les prochains jours. Un peu partout dans le pays, les cas se multiplient, comme à Shenyang et à Dalian, où des millions de personnes sont enfermées chez elles. À Pékin, le district de Chunyi est lui aussi en zone rouge et les écoles fermées. La quarantaine pour les voyageurs en provenance de l'étranger passe de 14 à 21 jours. Cette semaine devaient arriver les 10 experts de l'OMS chargés d'enquêter sur l'origine du virus. Ils devaient se rendre à Wuhan, mais au moment de monter dans l'avion, leurs visas ont été annulés sans explication. Il n'y aura donc pas d'enquête indépendante de l'OMS. En tout cas, pour l'instant.
Une correspondance de Stéphane Pambrin à Pékin. En Europe, alors que le Royaume-Uni et l'Allemagne reconfinent, on attend les annonces de Jean Castex demain. Un conseil de défense s'est tenu ce matin avant le conseil des ministres. Le gouvernement a dû changer de stratégie déjà sur la vaccination pour accélérer le mouvement. Il va devoir aussi changer de stratégie de communication, Vincent Derosier, pour tous les secteurs qui ne vont sans doute pas pouvoir redémarrer.
Oui, un conseiller résume en une phrase le dilemme de l'exécutif. On a le choix entre donner des perspectives et créer de la déception ou ne donner aucune date et déprimer les Français. Au mois de novembre, vous vous en souvenez, Emmanuel Macron avait voulu donner un horizon en fixant des échéances et un calendrier précis. Eh bien aujourd'hui, le Premier ministre semble vouloir abandonner cette stratégie. RTL vous l'a révélé, la réouverture des bars et des restos n'aura pas lieu le 20 janvier. Alors, à quoi bon donner une nouvelle date alors que l'Europe entière durcit les mesures, soupire un proche de Jean Castex. Ce qui est certain, c'est que le rythme de vaccination va lui s'accélérer. Objectif 300 centres ouverts d'ici la semaine prochaine, 5 à 600 à la fin du mois. D'après un ministre, Olivier Véran est aussi en train de mettre la pression sur les présidents de département pour stocker les vaccins partout en France et ainsi accélérer les choses. Enfin, le confinement total comme au Royaume-Uni, lui, n'a pas été privilégié ce matin en Conseil de défense, mais la carte des départements sous couvre-feu devrait bouger demain. Certains départements pourraient revenir à un couvre-feu à 20h et d'autres vont certainement se voir imposer un couvre-feu plus strict à 18h.
Vincent Derosier, le gouvernement s'est planté au départ, a dit ce matin le patron des patrons Geoffroy Roux de Bézieux. Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat, dénonce une impréparation et une logistique totalement défaillante dans la politique de vaccination. La logistique, parlons-en avec notre invité Aurélien Rouquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de logistique à Neoma Business School. Pour vous, il y a d'abord un problème d'anticipation ?
Oui, enfin, j'ai envie de dire que le problème n'est pas tant un problème logistique qu'un problème de stratégie au départ. Vous mettez en place une logistique pour, entre guillemets, accompagner une stratégie. Et ce qui a posé problème, à mon avis, c'est la stratégie de départ du gouvernement. qui a consisté à, dans une première phase, cibler uniquement les résidents des EHPAD.
Pourtant, pas... du point de vue sanitaire, ça paraît extrêmement logique.
Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne fallait pas le faire, mais ce que le gouvernement, à mon avis, a mésestimé, c'est, entre guillemets, la difficulté logistique à vacciner dans ce contexte-là.
C'est-à-dire
Il y a plusieurs causes. Il y a d'une part ce qu'on sait effectivement du vaccin qui doit être conservé à moins 70 degrés, donc on a des contraintes de stockage.
Oui.
On a des contraintes qui sont liées à la multiplicité des lieux, hein, plus de 10 000 EHPAD en France, au fait que parfois il n'y a pas forcément de médecins, au fait qu'il faut recueillir le consentement, ce qui peut poser problème pour ce public-là. On a des gens qui ont Alzheimer, enfin voilà, donc c'est pas forcément simple. Donc on a quelque chose qui forcément prend du temps quand on cible ce public-là. Et au fond, ce qu'on a constaté quand on a déployé cette stratégie qui était prévue, c'est que ça allait lentement. Et ce qui, au fond, est apparu finalement assez insupportable et difficile pour le grand public, c'est qu'on voyait les autres pays vacciner en masse. Et là, on avait des stocks de vaccins ailleurs qu'on n'utilisait pas.
Mmh.
Et donc, ce que le gouvernement, à mon avis, a pas suffisamment anticipé, c'est au fond peut-être le désir de vaccin dans la population française.
Mmh. Mais qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour déployer au plus vite ces vaccins aujourd'hui ?
Je crois que ce qu'est en train de faire le gouvernement, c'est qu'il est en train de déployer la logistique qui était prévue pour les phases successives. Et au fond, l'erreur de départ, c'était d'avoir ces phases un petit peu très séquencées qui posaient problème, puisque en fait, cette première phase, elle était très longue.
Mais vous pensez que c'était pour masquer le manque de doses de vaccins ou pas ?
Non, je ne pense pas que c'était pour masquer le manque de doses. De toute façon, le manque de doses, on le connaît depuis le départ. Je veux dire, on sait qu'on a un nombre de doses qui est limité, ce qui est logique. Je veux dire, les producteurs de vaccins, ils ne peuvent pas produire des milliards de doses comme ça. Donc, c'est logique qu'il y ait une pénurie de vaccins. On l'a partout. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on organise cette pénurie plutôt que de dire que voilà, il n'y a pas suffisamment de doses. Bah oui, il n'y a pas suffisamment de doses. Hein. On aimerait tous être vaccinés plus rapidement.
Mmh. En tout cas, le gouvernement a changé de stratégie et celle-là semble être bien meilleure, si je vous écoute bien. Merci Aurélien Rouquet d'avoir été l'invité de ce journal. Bonne journée à vous. On ne sait pas s'il y a des problèmes de logistique aux Pays-Bas, mais la vaccination vient tout juste de démarrer sur une soignante de 39 ans dans une maison de retraite. Le Bibendum en cure d'amaigrissement, Michelin supprime 2300 postes. On y vient dans un instant.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
On appelle ça pudiquement un plan de compétitivité. Le groupe Michelin va supprimer sur 3 ans jusqu'à 2300 postes en France, sans départ contraint. Pas de fermeture d'usine, mais des coupes dans les effectifs qui toucheront tous les sites en vue d'une réorganisation, Éric Vanier.
Oui, sans lien direct avec la crise sanitaire actuelle, selon la direction. Les discussions avec les syndicats avaient commencé bien avant le début de la pandémie. La direction veut à la fois monter en gamme, c'est-à-dire se recentrer sur les pneus à haute valeur ajoutée, ceux qui équipent les grosses cylindrées et les engins de chantier, par exemple, et diversifier sa production, c'est-à-dire ne plus seulement faire du pneu, mais aussi investir dans les piles à hydrogène, notamment, et dans la fabrication de colles technologiques. Ça va donc passer par un plan de formation pour reconvertir une partie des salariés, mais aussi donc par la suppression de 2300 postes en France sur 21 000, la moitié dans les bureaux, l'autre moitié dans les ateliers. Les 14 sites français de Bibendum seront tous impactés avec la promesse qu'il n'y aura pas de licenciement sec. Ce seront soit des départs à la retraite ou en pré-retraite non remplacés, soit des départs volontaires dans le cadre d'un plan de rupture conventionnelle collective.
Éric Vanier, c'est toujours le suspense en Géorgie aux États-Unis concernant l'élection sénatorial. Un des deux candidats démocrates a déjà été élu, mais on attend toujours les résultats pour l'autre candidat, ce qui signifie que les résultats sont très serrés. Or, l'enjeu est crucial pour Joe Biden, Lionel Gendron.
Oui, on avait prévu une élection serrée, c'est encore plus serré qu'imaginé. Si les deux démocrates gagnent, ça donnerait 50 sénateurs démocrates et 50 républicains. Et dans ce cas-là, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui arbitrait. Les Américains se lèvent avec cette incertitude. Pour l'un des deux postes, Raphaël Warnock est donné vainqueur selon les médias, 50,6% des voix. Raphaël Warnock, pasteur dans l'église de Martin Luther King, l'ancienne église de Martin Luther King, il serait le premier sénateur noir de Géorgie. L'autre siège n'est pas encore officiellement gagné. John Ossoff, le démocrate, est en tête avec 50,2% des voix. c'est du grand suspense. Il est dans la marge de contestation puisque selon le code électoral de Géorgie, le perdant peut contester si l'écart est inférieur ou égal à 0,5%. Joe Biden regarde tout ça avec attention, lui dont l'élection doit être confirmée par le Sénat tout à l'heure, alors que Donald Trump appelle ses partisans à manifester à Washington.
Lionel Gendron, direct de Géorgie pour RTL. Comme chaque jour dans RTL Midi, le coup de cœur de nos correspondants pour une initiative locale, un personnage ou encore une histoire. Aujourd'hui, nous partons à Strasbourg retrouver Yannick Holland. Vous vous enthousiasmez, Yannick, pour le futur stade de la Méno, construit en 1984 et il doit être rénové évidemment et agrandi. C'est un investissement à 100 millions d'euros, remarquablement écologique, c'est ça ?
Oui, bah c'est vrai que pour l'instant, le charme de la Méno, c'est plutôt le béton brut des années 80. Rénovation écolo qui sera confiée à un cabinet d'architectes anglais qui a déjà fait Wembley et l'Emirates Stadium d'Arsenal tout de même. Alors à Strasbourg, ce sera un magnifique cocon de 32 000 places, tout en restant le plus sobre possible d'un point de vue environnemental. Ça veut dire qu'on détruit le moins possible le stade existant, on l'enveloppe, on rajoute une tribune surélevée, ce qui permettra d'utiliser un minimum de matériaux pour le chantier. Le toit du stade deviendra un immense panneau solaire, système de récupération de toute l'eau de pluie, pompage dans la nappe phréatique de la fraîcheur pour produire l'eau glacée dans le stade. Et vraiment, ce que j'ai trouvé de plus spectaculaire, c'est la façade sud qui sera composée de fuselages d'Airbus A340 qui devaient aller à la casse. Recyclage surprenant qui a conquis également Jeanne Barseguian, la maire écolo de Strasbourg.
Oui, un des atouts de ce projet, c'est le réemploi de matériaux d'avion qui vont constituer en fait les brise-soleil de la façade sud. Donc c'est un projet à la fois extrêmement innovant et qui va allier l'esthétique à la qualité environnementale.
Voilà, et si avec ça le Racing Club de Strasbourg ne décolle pas en Ligue 1, c'est vraiment à ne plus rien y comprendre.
Mais de toute façon, il y a la meilleure ambiance de France à la Méno, c'est ça ? Si j'ai bien compris.
En toute objectivité, c'est la meilleure ambiance de France.
Alors Ludovic Van de Kerkhoff, notre directeur en chef qui est lensois, il dit que c'est pas du côté de chez vous que ça se passe. Hein. Il y a débat.
Il y a match.
Merci Yannick. C'est la journée des rois et des reines, l'épiphanie où l'on partage la galette. C'est une fête chrétienne, mais qui dans l'Antiquité était considérée comme la fête de la lumière après le solstice d'hiver. Et cette année, elle s'annonce inédite en mode Covid. Christophe Girardet possède à Lyon plusieurs pâtisserie de l'enseigne Victor et compagnie.
L'année dernière, sur 4 boutiques, on a fait à peu près autour de 3000 galettes. Donc forcément, hein, il y a encore beaucoup de télétravail en France et ces cérémonies des vœux qui ne se font pas. Clairement, les gens, s'ils ne peuvent pas se rassembler à 8, 10 ou 6, 8 dans un bureau en même temps, ça me paraît compliqué de partager une galette. Sur certaines boutiques, c'est pas loin de 40% en fait, de part de marché, cette galette de 28 cm, 6, 8 personnes, que les entreprises viennent nous acheter pour fêter la galette entre collègues de travail. Et là, pour le moment, je ne suis pas très optimiste.
Christophe Girardet avec Armelle Lévy. Et nous, on remercie ici à la rédaction Cyril Lignac pour ses galettes traditionnelles et sa merveilleuse brioche des rois qu'on a dégustée ce matin, juste avant la conférence de rédaction. Pascal Praud, vous n'y étiez pas, vous avez manqué quelque chose.
Oui, c'est un peu...
La brioche des rois, franchement, c'était exceptionnel.
Franchement, j'aurais bien aimé être là.
Alors, au menu des auditeurs.
Passionnant d'écouter votre professeur qui a témoigné oui. Et qui prenait l'exemple de la théorie de l'évolution, parce que c'est toujours finalement les exemples qui sont les plus intéressants. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ces gosses-là contestent la théorie de l'évolution, mais au fond, pas tant pour des raisons religieuses, puisqu'ils ne savent même pas, quand tu les interroges, la religion, en l'occurrence c'était l'islam, dont il parlait, où a été le prophète, comment a-t-il exercé son influence, etc. Et il dit, c'est pour s'opposer. Mais s'opposer à quoi ? À notre modèle, à une tradition française, à un ADN culturel, etc. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, on va pouvoir prolonger ces témoignages, puisque c'est notre sujet du jour. La laïcité à l'école, les enseignants sont-ils livrés à eux-mêmes ? Et si vous êtes enseignant, et notamment avec les exemples, c'est ça qui est toujours frappant, l'exemple de la théorie de l'évolution, c'était vraiment passionnant de l'écouter. Les soignants doivent-ils se faire vacciner contre la Covid-19 ? Médecins, infirmiers, aides-soignants, qu'en pensez-vous ? Est-ce que le vaccin doit être obligatoire ? Et puis, nous pourrons revenir sur ce sujet. Hier, beaucoup de gens ont témoigné au 3210 sur le sujet très grave et de l'inceste. Et aujourd'hui, on va poser une question qui élargit d'une certaine manière ce sujet. Faut-il supprimer la prescription pour les crimes sexuels sur les mineurs ? Aujourd'hui, les seuls crimes imprescriptibles sont les crimes contre l'humanité.
À tout de suite. Peggy Broche, la météo. Les vénards du jour vivent dans le sud.
Exactement, Christelle. Ils profitent depuis ce matin d'un beau soleil bien généreux entre les Pyrénées, la Méditerranée, l'est de la Corse également, même s'il y a un peu de vent. Un ciel plus lumineux que ce matin également vers l'Aquitaine pour cet après-midi. Ailleurs, c'est encore bien couvert. Alors peut-être aller quelques trouées à l'intérieur de la Bretagne vers la Normandie, mais les nuages vont quand même dominer. Et toujours quelques averses sur les côtes de la Manche, sur l'ouest de la Corse également. Encore quelques flocons dans le Grand Est. La Bourgogne également vers le centre. Maintenant, côté température, il fait toujours aussi froid, il faut se couvrir. 0 à Langres, 3 à Alençon, Tours et Limoges, 4 à Paris, Lille et Lyon, 6 à Nîmes, comme à Brest et 10 à Nice.
Bon, et demain, un peu plus de lumière, promis ?
Un peu plus, alors pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'à l'échelle du pays, non, peut-être pas non plus. On aura surtout plus de lumière dans le sud, entre la Gironde et les Alpes, ça ne veut pas dire du grand bleu. Mmh. On aura un petit ciel voilé. Sur l'extrême sud, par contre, là, ce sera bien voilé, un voile épais, ça va rester couvert toute la journée. Et après dissipation des grisailles matinales, on retrouvera quelques éclaircies tout de même sur le nord-ouest, avec quelques gouttes toujours sur les côtes de la Manche. En revanche, sur le nord-est, il y aura de la grisaille toute la journée avec quelques flocons. Tout ça sous des températures encore bien froides et stationnaires pour les maximales.
Merci quand même. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Est-ce que tous les soignants doivent se faire vacciner ? C'est une des questions du jour. Bonjour Aurélie, vous êtes infirmière. Aurélie ? Eh bien Aurélie va pouvoir intervenir après le rappel des titres avec Christelle.
Les stations de ski mobilisées pour sauver les vacances de février. Elles ne se font aucune illusion sur une réouverture demain. C'est la date qui avait été avancée au mois de décembre. Jean Castex fera des annonces demain à 18h. Le Royaume-Uni et l'Allemagne reconfinés et l'inquiétude monte également en Chine où une ville de 11 millions d'habitants située à 300 km de Pékin a été coupée du monde face à une recrudescence du virus. 2300 postes supprimés chez Michelin sur tous les sites du pays, de Clermont-Ferrand à Épinal en passant par Vannes. On appelle ça un plan de compétitivité qui doit s'étaler sur 3 ans. Le Paris-Nice cycliste, ce sera du 7 au 14 mars. Le parcours a été dévoilé ce matin. De retour au col de la Colmiane, il rendra hommage aux sinistrés des vallées de l'arrière-pays niçois, dévastés par la tempête Alex au mois d'octobre.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
13h01 sur RTL avec Aurélie. C'est une des questions du jour. Est-ce que tous les soignants doivent...